Merci pour ce beau moment passé ensemble, déjà dans l'approche de Dieu. Nous avons bénéficié aujourd'hui d'une véritable Dream Team. C'est un groupe de musiciens qui se retrouve autour de Pierre-Emmanuel et Fanny pour préparer le camp musical qu'ils tiendront cet été. Et ils nous ont fait la joie, le plaisir d'être parmi nous. Et ça a été vraiment bien de pouvoir ensemble nous approcher ainsi de Dieu dans la louange, la reconnaissance, le chant. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons continuer à méditer sur le sens de la présence de l'Esprit-Saint dans notre vie. Je reviendrai sur les textes qui ont été lus dans Jean chapitre 14, mais je vous invite à lire deux textes de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, les versets 4 à 7 d'abord. Galates 4, versets 4 à 7. Qui dit le lien entre le ministère de Jésus et celui de l'Esprit. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Et le deuxième texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Jusqu'ici, notre lecture. Lorsque Jésus était sur terre, il s'est arrêté un jour auprès d'un homme que tous méprisaient. Et il s'est arrêté auprès de cet homme avec pour lui une parole magnifique. « Il faut, lui dit Jésus, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » La vie de cet homme, Zachée, sera tout transformée par cette invitation de Jésus. « Il le reçut avec joie, nous dit Luc, qui nous précise aussi que Zachée a changé radicalement de conduite suite à cette rencontre. Le cadeau, il faut le dire, est unique. » Dieu en personne, venu vers nous en Jésus-Christ, a fait sa demeure, est venu habiter chez Zachée. Un honneur étonnant, un privilège inoubliable. Si ça s'était passé aujourd'hui, tout Facebook aurait été au courant dans l'heure après l'événement. Dieu s'invite en personne. Souvent, quand on parle de l'accueil de Dieu, on le compare à une invitation à laquelle nous sommes conviés. Dieu nous invite à venir à lui. Mais quand le Seigneur s'invite, c'est lui qui fait le déplacement. Il faut que je demeure dans ta maison. Impressionnant. Presque trop beau pour être vrai. C'est aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte. Quel sens, quelle force donner à l'événement? Il y a mille choses à dire autour du don du Saint-Esprit. Mais ce que j'aimerais méditer avec vous ce matin et laisser résonner en nos cœurs, c'est cette idée. Par l'Esprit, Dieu en personne s'invite chez nous. En nous envoyant l'Esprit, le Seigneur nous dit, comme Jésus autrefois à Zachée, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » D'abord, il faut faire les présentations. Qui est-il, celui qui s'invite chez nous, au point que l'on puisse dire « Votre corps est le temple du Saint-Esprit » ou « Vous êtes une habitation de Dieu en esprit ». Qui est-il ? Ce n'est pas si facile. Parce que parler de l'esprit, c'est évoquer une présence invisible, insaisissable. Certains parlent d'une influence, d'autres d'une force, d'une puissance. Certains rappellent que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se dit le souffle de Dieu. Le souffle, c'est agréable si le souffle est brise. Ça va déménager s'il est tempête. Pour d'autres, l'Esprit, c'est une sorte de pression intérieure qui anime, qui met dans des états particuliers. Mais tout cela n'est pas spécialement personnel et un peu abstrait. Le langage biblique lui-même n'est pas toujours personnel. Certains verbes qui disent le don de l'esprit font plutôt penser à un fluide, quelque chose qui est répandu, qu'à une personne. Dieu répand, Dieu déverse son esprit. On peut être abreuvé de l'esprit, rempli de l'esprit. Parfois, il est dit que Dieu nous donne de son esprit, que l'on reçoit une portion de cet esprit. Et l'esprit est décrit comme une force, une puissance qui saisit, qui anime, qui met en mouvement. Tout cela ne semble pas forcément personnel. Nous n'avons aucune difficulté à parler du Père en des termes personnels. Le mot Père est foncièrement un terme personnel, relationnel. Et quand Jésus dit que l'esprit nous permet de dire « Abba, Père », cela parle d'une relation très proche, très affectueuse. Très personnel. Jésus accentue ce côté personnel et nous nous adressons directement au Père dans la prière. Il nous est encore plus facile de penser au Fils comme une personne. Il est venu vers nous en une personne unique, Jésus de Nazareth, pleinement Dieu, pleinement homme, dans l'unité d'une personne unique qui s'appartient, qui agit, qui entre en relation à partir de ce qu'elle est. Et même si nous mesurons qu'à partir de l'ascension, un changement a dû intervenir, pour Jésus, à aucun moment nous ne cessons à penser à Jésus comme à une personne. Et quand le Fils parle à son Père, quand même il dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, nous avons lu dans ce texte de Jean 14, on arrive à concevoir la distinction des deux personnes dans une unité profonde et ineffable. Mais pour l'esprit, c'est un peu différent. Le mot « esprit » lui-même est moins personnel que « père » et « fils ». En grec, le mot est même au neutre, un genre qui s'applique plutôt aux choses qu'aux personnes. De plus, l'esprit ne s'est jamais incarné comme le fils. Nous avons du mal à nous le représenter. On ne s'adresse pas à lui directement dans la prière, même si on sait que c'est par lui que l'on prie. Son œuvre est en grande partie cachée, secrète, intérieure. Comment la discerne-t-on ? On ne voit pas l'esprit lui-même à l'œuvre, on voit les effets de ce qu'il fait. Comme pour le vent, dont on ne connaît la présence que par les effets de son action, le bruissement des branches, le froid sur nos visages. Alors oui, ce qui compte, ça semble être plutôt l'action de l'esprit que sa personne. La puissance, la force, la victoire pour les plus volontaires, la sagesse, le discernement pour les plus réfléchis. Et pourtant, quand Jésus nous parle de l'esprit, c'est en des termes très personnels qu'il en parle. Quand il annonce à ses disciples qu'il va les laisser, qu'il va retourner auprès du Père, il leur promet de ne pas les laisser orphelins, nous l'avons lu. Jésus sait que ses disciples auront besoin alors d'une vraie présence qui les accompagne, qui les soutienne, qui les porte, qui les rassure. D'une présence qui soit en quelque sorte tout ce que Jésus avait été pour eux lorsqu'il marchait à leur côté. Et c'est là précisément qu'il leur annonce la venue de l'Esprit. « Je ne vous laisserai pas orphelins, leur dit-il, je viendrai. » À vous. Je prierai le Père qui vous donnera un autre défenseur afin qu'il soit toujours avec vous. Nous l'avons vu. Soulignons plusieurs choses dans ces mots de Jésus. D'abord, grâce au don de l'Esprit, les disciples ne seront pas orphelins. Ils seront aimés, ils seront soutenus, ils seront accompagnés. Une simple force ne suffit pas à assurer cela. Seule une présence personnelle peut le faire. Jésus ensuite parle d'envoyer un autre défenseur. Alors on essaye de trouver la bonne traduction du mot que Jésus emploie. Dans le langage juridique, ce mot désigne quelqu'un qui est appelé aux côtés d'un accusé pour lui venir en aide, pour le défendre, d'où sa traduction par avocat. En 1 Jean chapitre 2, si nous péchons, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais ici, dans son discours d'adieu, Jésus évoque son départ. Ils auront besoin de quelqu'un pour les défendre, oui, mais les défendre pas juste juridiquement, c'est vrai, il faut être défendu lorsque nous nous présentons devant Dieu. Et Jésus fait cela pour nous grâce à son œuvre. Mais les disciples avaient aussi besoin de quelqu'un qui les défende, les accompagne dans toutes sortes de situations de leur vie concrète. C'est ce que fera le Saint-Esprit. Il sera leur compagnon, leur défenseur, leur soutien. Jésus précise, « Je vous enverrai un autre défenseur ». Alors il y a en grec deux mots pour dire « autre ». Aujourd'hui on fait beaucoup de grec, hein, c'est bizarre. Hein. On n'a pas trop l'habitude, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Ceci dit, je vous rassure, vous lisez la Bible en français, vous avez tout le sens nécessaire. Il y a donc deux mots pour dire « un autre défenseur ». Le premier mot insiste sur la différence. Quand on dit « un autre livre », pour dire il y a un titre et il y a un autre livre, un autre roman, ou, on insiste là sur la différence. Le mot c'est hétéros, comme quand on a hétérosexuel, ça veut dire un autre sexe. Le second mot pour dire autre souligne beaucoup plus la ressemblance. Dans l'exemple du livre, on peut parler d'un autre livre en disant un autre exemplaire du même roman. Et là c'est un mot qui dit autre, mais tout en signifiant quand même la ressemblance. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément ce deuxième mot qui dit la ressemblance que Jésus emploie lorsqu'il dit « Je vous enverrai un autre défenseur ». Cet autre défenseur n'est pas radicalement différent de Jésus. Au contraire, il est appelé à être pour les disciples ce que Jésus a été pour eux lorsqu'il était avec eux. Il leur rappellera ce que Jésus a enseigné. Il glorifiera Jésus car il prendra ce qui est à Jésus et il le leur donnera. Ce que Jésus a fait sera appliqué très personnellement au cœur des chrétiens par cet autre défenseur. Cet autre est tellement un avec Jésus, tellement un avec le Père aussi. Et Jésus a bien soin de souligner qu'il est vraiment une personne. Celui que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Comment mieux dire la mission de l'Esprit ? Il est aussi proche que Jésus l'a été de ses disciples, aussi réel, même si nous ne le voyons pas, même s'il est Esprit comme Dieu lui-même est Esprit. Il est aussi personnel que Jésus l'a été. Jésus a été capable de dire « je » dans l'union parfaite avec le Père. De même, l'Esprit est personnel, capable de dire « je » dans l'union parfaite avec le Père et le Fils. Et pour nous, un vrai compagnon, un vrai défenseur, attentif, aimant, quelqu'un qui est toujours là avec nous, véritablement. Mais continuons un peu plus loin. C'est qui vraiment ce troisième ? C'est qui ce troisième ? Quelle est sa particularité par rapport au Père et au Fils ? Alors ici, nous entrons dans des choses dont on ne parle pas forcément, pas très souvent. Il faut peut-être méditer un peu plus loin sur l'être même de notre Dieu, tel que la Bible nous le révèle, tel que Jésus plus particulièrement le met en lumière. D'abord, parlons du Père et du Fils. Quand on parle de Dieu comme Père et Fils, quand on parle de Père et de Fils, On parle à la fois d'un lien et d'un ordre. Un père donne ce qu'il est à son fils. Et il y a un ordre, cela vient du père pour aller vers le fils. Et lorsque l'on dit que Dieu est père, que Dieu est fils, ça veut dire qu'il y a quelque chose de cela dans la vie de Dieu. De toute éternité, tout ce qui fait la richesse de la vie de Dieu est à la fois donné et reçu. L'amour de Dieu en Dieu, l'amour de Dieu en Dieu est amour donné et amour reçu. Sa sagesse est sagesse donnée et sagesse reçue. On ne parle pas juste de la sagesse de Dieu ou de l'amour de Dieu, mais de l'amour donné, l'amour reçu, la sagesse donnée, la sagesse reçue. Sa puissance de Dieu est puissance donnée et puissance reçue. Et vous voyez qu'il y a là un vis-à-vis, une sorte de relation mutuelle, un partage qui se dessine d'une richesse incroyable où tout ce qu'est Dieu est à la fois donné et reçu. C'est le même amour, la même sagesse, la même puissance, les mêmes perfections, mais elles sont données et reçues. Et il y a là quelque chose pour dire Dieu Père et Dieu Fils. Et c'est de toute éternité que c'est comme cela. Il n'y a pas eu un seul moment où cela aurait été différent. Ça dit quand lui-même Dieu est relation. Et ça, je pense que nous arrivons à le concevoir. Il y a cette relation en Dieu qui fait que tout ce qu'il est donné et reçu. Et que sa vie. Mais pourquoi un troisième? Et comment parler de ce troisième? Il me semble que ce troisième nous dit que Dieu n'est pas simplement relation, comme une sorte de vis-à-vis entre donné et reçu, entre père et fils. Dieu n'est pas simplement relation, mais il est aussi communion. Comment tenter d'exprimer, de concevoir cette communion qui existe en Dieu? Il nous faut ici écouter Jésus. Comment est-ce que Jésus nous parle de l'Esprit? Quand Jésus nous parle de l'Esprit, il est toujours lié, l'Esprit est toujours lié à la fois au Père et au Fils, toujours lié aux deux. Je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit. L'Esprit est toujours le fruit, est ici le fruit de l'action conjointe du Père et du Fils. L'Esprit sera envoyé par le Père, dit Jésus, en mon nom. Et pour ce qui est de la présence, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, en parlant de l'Esprit. Mais également, il dit, nous l'avons lu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Et Jésus exprime là aussi le rôle de l'Esprit, mais l'Esprit qui exprime la présence du Père et du Fils. Et vous voyez que l'Esprit apparaît ici comme la jonction de l'action du Père et du Fils, comme le fruit de leur volonté commune, le fruit de leur coordination, le fruit de leur relation, un fruit distinct d'eux, mais dans lequel ils se retrouvent. Autrement dit, l'amour donné et reçu, dont nous parlions tout à l'heure, devient aussi un amour partagé. La sagesse donnée et reçue devient une sagesse partagée, parce que Père et Fils se retrouvent dans l'Esprit. Et la façon dont Jésus parle de l'Esprit dit que Dieu est en lui-même non seulement relation, comme un vis-à-vis, mais aussi communion et partage. Et l'Esprit représente tout particulièrement cette dimension de la communion et du partage. Il est troisième, mais il est riche des deux autres, parce qu'il est le fruit de leur coordination, de leur amour commun. Parce que tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il est, il le reçoit des deux. En l'Esprit, on est riche du Père et du Fils. Et c'est pourquoi Jésus peut dire à propos de l'Esprit, à la fois je viendrai vers vous et nous viendrons, nous ferons notre demeure. Alors dans cette vision des choses, l'Esprit ne peut pas être impersonnel. Au contraire, il représente la personne riche de la dimension de la communion. Alors comment dire tout cela un peu plus simplement ? Comment parler de l'Esprit ? Moi, je vous propose une formule facile à retenir. C'est de dire que l'Esprit, c'est Dieu en personne. C'est Dieu en personne. C'est Dieu en personne qui vient faire sa demeure en nous. C'est Dieu en personne, pas une simple force venant de Dieu ou une sagesse venant de Dieu, mais c'est la personne même de l'Esprit qui habite en nous. Mais qu'est-ce qui la caractérise, cette personne ? C'est qu'elle est riche de toute la communion de Dieu. En l'Esprit, nous avons et le Père et le Fils. L'Esprit n'est pas une sorte de petit bout de chaîne indépendant qui joue sa petite partition là tout seul au bout, à sa manière. Non, il est l'expression du Père et du Fils, le meilleur du Père et du Fils en commun. Et en l'Esprit, nous avons donc et le Père et le Fils. La puissance du Saint-Esprit est la puissance du Père et du Fils réunis en un même projet. Son amour est l'amour du Père et du Fils qui s'applique à nos cœurs. En l'Esprit, nous avons et le Père et le Fils. C'est Dieu, dans toute la richesse de sa communion, qui vient habiter en nous. C'est Dieu en personne. Dieu avec tout ce qu'est Dieu. Dieu avec tout ce que peut apporter Dieu, à la fois dans son être et dans sa réalité personnelle. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit, dit l'apôtre Paul. Et je pense que c'est ce qui donne vraiment le sens très personnel et plein de la personne de l'Esprit. Qui est l'Esprit ? C'est Dieu en personne qui habite en nous. Et cela, je propose que nous laissions un petit peu résonner cela dans notre cœur après les éléments un peu plus de réflexion plus abstraite. Il faut que je demeure dans ta maison, disait Jésus à Zachée. C'est aussi ce que Dieu en personne nous dit lorsqu'il vient faire sa demeure en nous par son Esprit. Il ne s'agit pas simplement de la visite d'un moment, comme Jésus auprès de Zachée a visité cet homme en passant dans sa ville. Il s'agit d'une habitation, d'une demeure. Jésus a soin de le souligner. Je vous enverrai un autre défenseur afin qu'il soit éternellement avec vous. Nous viendrons, dit-il, et nous ferons notre demeure chez lui. Zachée a eu une visite magnifique et inoubliable de Jésus. Dieu en mais elle n'a duré que quelques heures. L'Esprit, lui, demeure en nous. Dieu en personne choisit de nous accorder son attention de manière particulière et personnelle. Dieu en personne choisit de nous accorder sa présence, son soutien. Dieu en personne choisit d'être touché par ce qui nous touche, concerné par ce qui nous concerne. Dieu en personne choisit d'être là au cœur de notre vie pour faire son œuvre de restauration en nous. Car oui, il fait sa demeure en nous, mais il restaure la maison. Il restaure la maison, il veut la rendre belle, il veut la rendre sainte. Que c'est beau de pouvoir dire « Dieu en personne choisit d'être là, choisit de faire sa demeure en nous ». Car cela veut dire, comme dit le psaume 40, « Le Seigneur pense à moi ». Dieu fait sa demeure en moi, ça veut dire « Le Seigneur lui-même pense à moi ». Moi, je suis pauvre et indigent, dit le psaume 40, mais le Seigneur pense à moi. Entrer en relation avec Dieu demande de notre part un engagement personnel de foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il faut de notre part la foi comme engagement pour recevoir vraiment ce que Dieu veut faire pour nous. Et tout ce que Jésus a fait pour nous ne nous sert à rien s'il n'y a pas cette dimension de foi qui s'approprie qui accepte, qui engage. Ça, c'est ce qui nous est demandé. Mais la contrepartie, c'est que Dieu en personne vient faire sa demeure chez nous. Et ça, c'est un choix volontaire, un choix déterminé. L'Esprit n'est pas là parce qu'il aurait été envoyé sans trop savoir pourquoi. Il est là parce qu'il l'a choisi, en communion, en plein accord avec le Père et le Fils. Et c'est un choix voulu. Et ceci dès le tout début de notre vie avec Dieu, dès le premier moment où nous ouvrons à Dieu. Paul dit aux chrétiens de Galatie, à qui on proposait de revenir à une relation avec Dieu basée sur le respect des commandements de Dieu plutôt que sa grâce donnée en Jésus, et dit « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair ?» Autrement dit, l'Esprit choisit d'être là, de faire sa demeure, dès le commencement, puisque Paul parle de dire « Paul parle après avoir commencé par l'Esprit. » Dès le commencement, dès le premier moment où nous ouvrons notre vie à Dieu, il vient faire sa demeure en nous. L'Esprit choisit d'être là. Et nous dit Jésus, il fait sa demeure éternellement en nous. Il ne nous lâchera pas. Il ne nous lâchera jamais. Je me souviendrai toujours d'un moment où, avec un groupe de formation à la vie chrétienne, quand j'étais à Nîmes, nous parlions de cette question-là. On parlait de l'Esprit qui vient habiter en nous, faire sa demeure en nous. Et quelqu'un dans le groupe a demandé, mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons le mal? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons le mal? On y a réfléchi ensemble et on a conclu à partir de ce que Jésus disait, lorsque nous faisons le mal, il ne quitte pas la maison. Il ne quitte pas la maison, il reste là. Il demeure en nous. Il est peiné, il est attristé, il est peut-être offusqué, déçu, mais il reste là, il demeure, il reste là. Et même si nous avons sali la maison, et même si nous avons gâché tout le travail qui avait été fait jusque-là, il n'a qu'une hâte, reprendre l'ouvrage, repartir malgré tout. Et c'est pour ça qu'il reste, c'est pour ça qu'il demeure. C'est assez saisissant d'y penser. Mais c'est cela ce que nous dit Jésus. L'Esprit Saint ne va pas prendre un meilleur air ailleurs lorsque les choses vont mal chez nous. Il reste là, parce qu'il veut. Il est engagé avec nous. Et entre parenthèses, c'est cette pensée-là, c'est ce qui doit nous pousser à revenir le plus rapidement à Dieu lorsque nous avons mal agi. Il peut nous arriver d'avoir honte d'avoir fait le mal et d'être tellement honteux qu'on ne veut surtout pas bouger à cause de cette honte. « Mais Seigneur, comment je peux encore te parler ?»« Non, je préfère rester en silence, je suis trop nul, etc. » Mais il est là. Il reste là. Dieu en personne est là. N'a pas abandonné la demeure de notre cœur, même si cet ouvrage a été sali, même s'il a été gâché. Et tout ce que le Seigneur attend, c'est de pouvoir reprendre les choses pour retravailler, pour reprendre l'ouvrage encore et malgré tout. Et c'est pour ça qu'il faut revenir rapidement au Seigneur. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il demeure en nous. Il demeure. Il reste là. C'est une première chose qu'on peut souligner. Deuxième application de cette pensée que c'est Dieu en personne qui vient vers nous, ça veut dire aussi qu'on ne manipulera pas le Seigneur, qu'on ne manipulera pas l'Esprit, qu'on ne l'instrumentalisera pas. Une force impersonnelle est manipulable. Une force a même besoin d'une personne pour être utilisée avec un but. Et bien des gens aimeraient avoir plus de pouvoir, plus de puissance. Et c'est parfois pour ça qu'on demande l'Esprit. J'aimerais être plus puissant, je veux devenir puissant, je veux devenir efficace, je veux devenir performant. C'est pour ça que je demande l'Esprit Saint. Ça, c'est ce qu'on pense lorsqu'on considère plus ou moins l'Esprit Saint comme une puissance. Et le risque, c'est qu'il devienne assez facilement, à ce moment-là, une puissance à notre service. Mais si l'on pense que l'Esprit est vraiment Dieu en personne, cela change complètement la donne. Parce qu'une personne, ça n'agit pas sur commande. Une personne, on ne décide pas pour elle. Une personne, cela a une volonté, ça a un projet. Et Dieu en personne habitant en nous, ce n'est pas une puissance possible pour tout et pour n'importe quoi. Dieu en personne qui habite en nous, ça se respecte. Dieu en personne, cela s'écoute. Dieu en personne, on s'y soumet. Parce que c'est Dieu, Dieu en personne. Et quand et comment est-ce qu'une personne donne le meilleur d'elle-même? Ce n'est pas lorsqu'on la force à faire ce qu'elle ne veut pas. Lorsqu'une personne donne le meilleur d'elle-même, lorsque une relation s'établit, lorsque cette relation est bonne, lorsque cette relation est harmonieuse, lorsque l'amour est là, lorsqu'il est vivant, lorsqu'il est réel, lorsqu'il est partagé. Alors comment allons-nous connaître la puissance du Saint-Esprit? C'est en développant une relation d'amour avec le Seigneur qui est là. C'est en développant une relation d'obéissance, en développant une relation d'écoute de la parole que Dieu nous adresse. C'est en ayant faim et soif de mieux connaître le Seigneur. C'est en cultivant une vie de prière. C'est en ayant faim et soif de sainteté, parce qu'il est l'Esprit Saint. C'est ainsi que nous connaîtrons la puissance de son action. Dieu en personne habite en nous. C'est dire la priorité à la relation, à l'harmonie, à la régularité, à la profondeur de la communion. Mais troisième application, Dieu en personne qui habite en nous, c'est aussi Dieu en projet pour nous. C'est aussi Dieu en projet pour nous. Vous connaissez tous ce verset qui dit « Je connais les projets que je forme sur vous ». C'est une parole que Dieu dit au peuple d'Israël par Jérémie, en Jérémie 29. Quels sont-ils les projets de Dieu lorsqu'il vient en personne habiter en nous? Le projet de Dieu, c'est de nous transformer. Et c'est de nous équiper, de nous fortifier jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. C'est une expression de Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 19. Nous transformer, nous équiper, nous fortifier jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. C'est de nous aider et de nous donner les ressources pour marcher dans la sainteté. C'est pour nous accompagner, nous renouveler, pour que nous marchions dans les voies de Dieu, pour que nous progressions dans l'obéissance à sa parole, pour que nous découvrions toutes les richesses de son amour. En préparant ce que je vous dis, j'ai été obligé de changer ce qui me venait immédiatement à l'esprit. J'avais envie de dire, les projets de Dieu, ce sont tel et tel but, et de lister Christ formé en nous, la sainteté, la marche selon Dieu, l'obéissance à sa parole. Mais j'ai dû changer la formulation. Dieu en personne qui habite en nous, c'est cela, oui, mais c'est aussi en plus le Dieu qui nous équipe pour arriver à ses buts. C'est le Dieu qui nous renouvelle pour arriver à ses buts. C'est Dieu qui nous accompagne, Dieu qui nous relève, Dieu qui nous fortifie pour réaliser ses buts. Et c'est juste bon de nous le rappeler. Dieu a des projets pour nous. Mais Dieu en personne habite en nous pour réaliser ses projets, ça signifie que nous ne sommes pas seuls à progresser. Nous ne sommes pas seuls pour avancer dans la sainteté. Nous ne sommes pas seuls pour ce qui doit être changé en nous. Et si à un moment ou à un autre, nous nous rendons compte qu'il y a une chose qui doit changer dans notre vie, si peut-être ce matin vous avez conscience qu'il y a quelque chose d'important qui doit changer en vous, souvenez-vous de cela. Vous n'êtes pas seul. Pour cette chose qui doit changer en vous, si elle est selon Dieu. Le Seigneur veut être là, en personne, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour réaliser ce que vous ne pouvez pas réaliser, pour rendre possible ce qui vous semble être mission impossible. Le Seigneur est là pour vous accompagner. C'est cela. Dieu habite en nous. Dieu en personne, en projet pour nous. Un Dieu présent, un Dieu agissant, un Dieu persévérant. Et c'est ici qu'on peut recueillir tout ce que nous dit l'Écriture à propos de l'action de Dieu dans des personnes, en bien des situations. Dieu donne courage, vaillance, force intérieure. « Mon esprit est au milieu de vous, fortifiez-vous, dit-il. » Dieu donne intelligence, sagesse, conseil, force à ceux qui en ont besoin. Dieu rafraîchit intérieurement comme une pluie qui tombe sur un terrain désertique. C'est encore une image de ce que fait l'Esprit en nous. Dieu rend vie à des eaux desséchées. Dieu transforme le cœur. Dieu nous renouvelle intérieurement. Dieu inscrit la loi de Dieu en notre cœur et pas juste sur une loi extérieure qu'il faudrait accomplir sans trop savoir comment. Dieu prend tout ce qui est à Christ et nous l'applique. Et nous l'applique à notre cœur. Jésus disait, l'Esprit prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Tout ce que Jésus a fait, si vous ne pouvez pas croire au pardon de Dieu, le Saint-Esprit est là pour prendre ce pardon de Dieu et dire, c'est pour toi mon ami, c'est pour toi mon ami, crois-y, reçois-le. Et ça concerne le pardon, ça concerne tout le soutien de Dieu, toute l'action de Christ envers nous. Dieu, l'Esprit produit en nous le vouloir et le faire. Il veut développer dans notre vie un fruit nouveau, un fruit qui développe un caractère nouveau. Dieu en personne fait sa demeure en nous. Il est là non seulement pour fixer le programme, mais aussi pour en accompagner la réalisation à tout moment, en toute situation, face à tout besoin. Alors voilà, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Le don de l'Esprit après que Jésus ait achevé son œuvre sur la terre. Mais la Pentecôte n'annonce pas une expérience particulière. La Pentecôte annonce cet engagement de Dieu, un engagement personnel, individualisé en chacun de nous, si nous lui ouvrons notre vie. Dieu en personne fait sa demeure en nous. Le Seigneur pense à nous. Le Seigneur ne lâchera rien. Le Seigneur donne ses ressources jour après jour. Il poursuivra son œuvre. Alors j'aimerais nous dire, honorons cette présence. Honorons cette présence. Ouvrons-nous à son action. Et que le Seigneur, Dieu en personne, ait de la joie d'être là. Malgré tout ce qu'il faut faire comme travaux de rénovation, ce n'est pas grave. Qu'il ait la joie de faire sa demeure chez nous. Sa demeure chez moi, sa demeure chez chacun d'entre nous. Amen.